piazza Milano.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Merci de nous avoir choisi. C'est la radio Nzambagate Kakawe. Nous sommes dimanche 3 septembre 2023. C'est le grand rendez-vous de l'actualité qui a marqué cette semaine écoulée. À la présentation, vous êtes avec Bonfils Niongiri. Tout de suite, les détails de cette rétrospective de l'actualité. 3 personnes ont été grièvement blessées. Un véhicule de type Probox brûlé. Source Agihanga précise que 2 personnes seraient mortes sur le champ. C'est du moins le bilan d'une attaque des hommes armés d'officiers qui ont tendu une embuscade dans la forêt de la Rukoko dans la nuit de ce samedi, tout près du bas postué dans la zone Buringa de la commune Gianga en province Bubanza. Après une petite confrontation avec les forces de l'ordre, ce groupe de rebelles s'est replié dans la forêt de la Rukoko d'où il s'est revenu. Jusqu'à maintenant, l'administration s'est gardée de tout commentaire. Poursuivons cette rétrospective par le chapitre politique. Les Burundais ont commémoré ce 28 août 2023 le 23e anniversaire de la signature de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation des Burundais. Selon Léon Singenda Kumana du parti Fodebu, un des signataires de cet accord, les Burundais ont encore besoin de cet accord parce que la réconciliation des Burundais n'a pas encore été effective. La pratique de l'exclusion reste d'actualité. Il a demandé à tous les Burundais épris de paix de se lever et d'exiger la réhabilitation de l'accord d'Arusha. Je vous propose de le suivre.
Cet accord d'Arusha a été interprété différemment par rapport à sa mission. Il y a un groupe qui a considéré l'accord d'Arusha comme un accord de paix et de réconciliation, c'est-à-dire qui devait immédiatement après sa signature ramener la paix et la sécurité au Burundi, réconcilier le peuple burundais. Un deuxième groupe considère l'accord d'Arusha comme un non-lieu. Ce groupe considère cet accord comme une compromission entre le parti Iprona et le Fodebu, soi-disant que les premiers, les Iprona, ont renversé les institutions démocratiquement et ont assassiné le président Étienne Ndadaye, et pour le deuxième groupe, le Fodebu, que le Fodebu a commis un génocide contre les Tutsis en 1993. En réalité, le troisième groupe, et c'est le groupe qui a raison, c'est le groupe qui considère que l'accord d'Arusha est là pour aider les Burundais à rechercher la paix, à rechercher la sécurité, à rechercher la réconciliation et la cohabitation pacifique des Burundais, à chercher le développement du Burundi pour faire du Burundi une nation digne, une nation unie, une nation réconciliée, une nation prospère. C'est ce groupe qui est en train de revendiquer aujourd'hui que l'accord d'Arusha soit réhabilité, que l'accord d'Arusha reste le fondement de la réconciliation des Burundais, reste le fondement du développement du Burundi. Il pousse plus loin d'ailleurs, il parle de la refondation. Cet accord reste le fondement de la refondation de la nation burundaise. Il n'y a aucun Burundais qui peut me prouver que maintenant la question de la réconciliation des Burundais a été effective, pour autant que même la commission vérité réconciliation n'a pas encore remis ce rapport, même si ce n'est pas une commission conforme à l'accord d'Arusha. Il n'y a personne qui peut me dire que les Burundais sont réconciliés, qu'il n'y a plus de réflexes ethniques, qu'il n'y a plus de réflexes d'exclusion. Ce qui prouve que le premier principe moteur de l'accord d'Arusha reste d'actualité. Il n'y a personne qui peut me prouver aujourd'hui que la démocratie et la bonne gouvernance se sont consolidées dans ce pays. Il n'y a personne qui peut me prouver que l'armée, la police, le service national de renseignement ne sont plus au service d'un parti politique ou au service d'une ethnie. Encore moins, personne ne peut me prouver que le Burundi a été reconstruit, que le Burundi est développé. Le Burundi a encore besoin de cet accord d'Arusha. C'est pour cette raison que j'interpelle tous les Burundais, en commençant par les institutions, de se lever et d'exiger que l'accord d'Arusha soit réhabilité.
Toujours sur ce dossier, l'ONG locale Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités estime qu'il faut une évaluation de la mise en application de cet accord. Faustin Likumana, directeur national de Parsem, trouve que les crises politiques, l'exclusion dans toutes les formes que l'accord d'Arusha voulait arrêter sont toujours d'actualité et cela ne permettra jamais le pays d'atteindre la voie de l'émergence.
cet accord avait cimenté la cohésion nationale dans notre pays. Et l'accord avait permis de mettre fin à la guerre qui avait été caractérisée par des crises politiques répétitives qui avaient pesé ou démasqué le développement économique de notre pays. D'abord, pour passer mon pourrait vraiment atteindre la voie de l'émergence si on ne dit pas au revoir définitivement aux crises politiques. Si on analyse au niveau du coût, déjà en 1972, le PIB a reculé de 6% suite à la crise de 1972. De 1993 à 2005, le PIB a reculé de 33%. En 2015, le PIB a reculé d'1% et il y a eu une stagnation de la croissance économique. Donc, l'accord de l'Ouest avait permis de construire un Burundi sûr pour tous et pour chacun. Outre le partage du pouvoir pour asseoir la concorde nationale pour éviter l'exclusion, l'accord d'Arusha avait vraiment signé la renaissance du Burundi parce que il y avait d'autres principes contenus dans l'accord d'Arusha qui devaient être érigés en mode de gouvernement. Donc il s'agissait de l'alternance au pouvoir, la démocratie, les élections, les droits de l'homme, la lutte contre la corruption, l'indépendance de la justice, le développement économique, le partenariat avec nos partenaires techniques et financiers. Mais actuellement, si nous ne faisons pas attention, on dirait que certains de ces principes commencent à se volatiliser. L'exclusion commence à être vue par certains comme si elle était en train de réapparaître. De plus belle, surtout l'exclusion au niveau politique, ethnique, la corruption actuellement a pignon sur rue, la violation des droits de l'homme, la pauvreté s'installe encore une fois. On peut se demander alors les résultats de cet accord, 23 ans après sa signature. Ça veut dire que nous devons faire une introspection. De telles occasions devraient offrir l'occasion de débattre avec sincérité, avoir un discours des autorités officielles sur l'état de l'Union, sur l'état de la cohésion nationale. Parce que l'accord d'Arusha avait complété le déficit constaté dans la charte de l'unité nationale qui n'avait pas permis justement qu'il n'y ait plus de crise politique. Et j'imagine alors qu'on ne peut pas renier l'histoire. L'accord d'Arusha appartient à l'histoire du Burundi, appartient au patrimoine national. On doit vraiment le sauvegarder. C'est pour cela que Parsem estime qu'il devait y avoir une évaluation.
C'était la voix de Faustin Ndikumana, président national du Parsem. En politique régionale, de nouvelles stratégies seront prochainement envisagées pour contraindre le mouvement M23 à respecter les accords visant à garantir le retour de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo. Le président Ndayishimiye l'a dit son lundi dernier après une brève visite en République démocratique du Congo. Selon le président Ndayishimiye, tout sera décidé dans le prochain sommet sur la République démocratique du Congo. Suivez-le.
Dans le Nord Kivu, là où le contingent burundais occupe, c'est toujours dans ce sens de conviction. Il n'y a pas eu d'affrontement réel entre les groupes armés congolais et l'armée burundaise. Mais nous essayons de les convaincre. Je pense que la région aussi devra faire de même et les contingents militaires des autres pays. Quand nous allons nous réunir, nous allons aussi chercher à avoir une même stratégie. Parce que c'est convenu que un groupe récalcitrant sera contre de suivre le processus. Donc, ce que je peux dire, ce n'est pas le moment de dire qu'il faut renvoyer la force régionale parce qu'elle ne fait rien. Mais souvenez-vous aussi qu'au départ, ce n'était pas planifié de confronter le M23. Donc, et quand nous allons nous réunir, c'est là où nous allons décider et c'est lui qui va refuser effectivement de remontrer nos favorables. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Je pense que dans le sommet, la réponse sera toujours là.
Abordons à présent le chapitre Justice et droits de l'homme avec notre consoeur Foliane Ilangabiye. Si tous les journalistes doivent être condamnés pour avoir tendu leur micro aux opposants, il n'y aurait plus de métier de journalisme ni au Burundi ni ailleurs. C'est ce qu'indique Antoine Kabulahe, directeur du groupe de presse Iwachu, au moment où la journaliste Foliane Ilangabiye a totalisé au cours de cette semaine écoulée une année en prison. Pour Antoine Kabulahe, cette journaliste n'a rien fait pour mériter la peine de 10 ans de prison. Je vous prie de l'écoute.
Aujourd'hui, c'est vraiment un jour triste pour les journalistes burundais, spécialement mais aussi pour les journalistes africains, voire les journalistes du monde entier. Une collègue vient de boucler une année en prison, pour rien, gratuitement. Floriane Ilangavier, c'est une jeune mère de famille, mère de deux enfants de 10 et 8 ans, des enfants donc qui ont encore besoin de leur mère, et surtout qui est incarcérée pour rien. Moi, j'ai lu l'acte d'accusation, mais c'est vide. On accuse Floriane Ilangavier d'avoir animé une émission au cours de laquelle deux de ses invités ont émis des critiques envers la gouvernance au Burundi, la corruption, la violation des droits de l'homme. Mais franchement, ces critiques, on les entend même de la bouche du chef de l'État, qui dénonce la corruption, qui dénonce la magistrature, qui dénonce la mauvaise gouvernance. Et voilà, c'est un journaliste qui paye aujourd'hui un discours que l'on entend tous les jours. Et puis les journalistes, nous sommes là aussi pour dire des choses qui ne marchaient pas. Donc, si tous les journalistes devaient être condamnés pour avoir donné leur micro à ce que l'on appelle opposants, il n'y aurait plus de journalisme, ni au Burundi, ni ailleurs. C'est vraiment une honte aujourd'hui que cette journaliste soit emprisonnée. Et vous savez, elle a été condamnée à une lourde peine de 10 ans de prison. C'est énorme, c'est fou. J'ose espérer donc que finalement la raison va primer et que cette jeune mère de famille, que notre collègue, va retrouver sa liberté. Mais aujourd'hui, comme je le disais, c'est un jour de tristesse pour les journalistes burundais, mais aussi pour les journalistes du monde entier.
Même son de cloche pour les organisations internationales de droits de l'homme, si le président de la République, Evariste Ndayishimiye, croit à ses promesses de réforme, il devrait appeler à la libération immédiate et sans condition de Floriane Ilangavier et empêcher son gouvernement de manipuler le système judiciaire burundais. Cela figure dans un communiqué conjoint de l'initiative pour les droits humains au Burundi, Amnesty International, Human Rights Watch et le comité pour la protection des journalistes. Un communiqué sorti ce mercredi dernier. Écoutez Karina Tersiane, elle est présidente de l'initiative pour les droits humains au Burundi, IDHB.
Floriane Ilangavier vient de passer une année en prison simplement pour avoir exercé son métier de journaliste et pour avoir critiqué le gouvernement burundais. C'est une longue année, mais qui ne représente qu'un dixième de la peine à laquelle elle a été condamnée. L'initiative pour les droits humains au Burundi, Amnesty International, Human Rights Watch et le Comité pour la protection des journalistes ont publié aujourd'hui un communiqué conjoint pour rappeler ce cas d'injustice flagrante et pour attirer l'attention aux restrictions sévères à la liberté d'expression qui persistent au Burundi. Floriane a été condamnée à la suite d'un procès inéquitable, entaché d'irrégularités et sans que le procureur ne fournisse des preuves crédibles de sa culpabilité. Les conditions d'emprisonnement de Floriane ont aggravé sa souffrance. Elle est emprisonnée à Muyinga, loin de sa famille, et son état de santé est préoccupant car elle a difficilement accès aux soins dont elle a besoin. Ce cas illustre l'hypocrisie des discours du président Evariste Ndayishimiye. D'un côté, il vante ses efforts pour restaurer l'indépendance de la justice et promet de protéger les droits humains. Mais en même temps, il garde le silence sur cet exemple emblématique d'injustice. S'il veut que le monde croie à ses promesses de réforme, il devrait appeler à la libération immédiate et sans condition de Floriane Ilangavier et empêcher son gouvernement de manipuler le système judiciaire pour punir ses détracteurs.
Parlons droits de l'homme avant de clore cette rétrospective où la disparition forcée reste l'une des formes de crimes commis au Burundi par les agents de l'État avec la complicité de hautes autorités des pays. C'est ce qu'indique Patrick Nazwe, président du Forum pour la conscience et le développement Focodé en sigle. C'était le 30 août dernier où le monde entier célébrait la journée dédiée aux victimes des disparitions forcées. Patrick Nazwe, président de la campagne Ndondeza, a rappelé des cas récents de disparitions forcées sans aucune dénonciation de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, et cela passe également malgré la promesse du chef de l'État de châtier les auteurs de ce crime odieux. On l'écoute.
Les disparitions forcées continuent et nous avons donné quelques exemples des cas de disparitions forcées recensés en 2023. C'est par exemple le cas de Frodoir Ndaikengurukiye, enlevé le 16 février 2023 à Kamenge par des agents du Service national de renseignement. Le cas de Viateur Nzigo, militant du parti CNL, enlevé le 29 mars 2023 en commune Gassogwe par des responsables du service national de renseignement et de la jeunesse Imbonerakure en province Muyinga. C'est le cas de Focas Niyubunu, responsable local du parti CNL en commune Bururi, qui a été enlevé le 23 mai 2023 au chef-lieu de la province Bururi. Le même jour, toujours à Bururi, Jean-Claude Ndaikengurukiye, percepteur de la taxe communale, a été enlevé en répondant à un appel d'un responsable communal connu aussi comme un informateur de services secrets. Il y a un cas très récent en province de Kayanza, Désiré Manirambona, ancien agent du service national de renseignement, d'ailleurs utilisé dans beaucoup de crimes, dont des cas d'assassinat et d'enlèvement des citoyens, lui aussi était enlevé le 31 juillet 2023 et il reste introuvable jusqu'ici. Notre déclaration rappelle que l'impunité des auteurs des disparitions forcées reste la règle au Burundi, en dépit des promesses du président Évariste Ndayishimiye de châtier les auteurs de ces enlèvements. Nous avons rappelé la lettre que nous avons envoyée au président Ndayishimiye en août 2022, une lettre qui comprenait notamment une liste de 80 personnes enlevées par les services de l'État sous le régime Ndayishimiye, et pourtant le président n'a jamais répondu à cette lettre. Il n'a engagé aucune enquête sur ces disparitions forcées. Nous condamnons le fonctionnement de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, qui depuis 4 ans, sous la direction de Sixte Vinini Muraba, n'a rapporté aucun cas de disparition forcée dans ses rapports depuis 2019. Nous avons enfin appelé la communauté internationale, les partenaires du Burundi, à rester vigilants sur ce phénomène des disparitions forcées au Burundi.
Et voilà, mesdames et messieurs, auditeurs et auditrices de la radio Nzambagateka Kawe, c'est par ce chapitre des droits de l'homme que nous mettons un point final à cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine écoulée. À la présentation, vous étiez avec Bonfils Nyongere. Passez une excellente soirée dominicale chez vous et à la prochaine.
Zambia Samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.